deux fois maman m'a parlé, m'a supplié de te laisser. Et à chaque fois moi je reste. Combien de fois mon sang doit couler. J'ai visé le mur et j'ai cogné. J'ai tellement peur que tu me laisses.
Si tu ne vis pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous. Si tu ne vis pas pour moi, fais-le au moins pour nous. Au moins pour nous. Fais-le au moins pour nous.
Bienvenue sur la radio africaine. On commence fort avec Jederim Taiki pour nous en ce mardi 2 février 2021. Bon courage, il est 9h06 en temps universel, 10h06 à Paris. On commence avec Black and Proud.
Black and Proud. Ils sont noirs, ils sont fiers.
Africa.
Yes, Aïssa, Black and Proud. On va se la faire qu'un riz aujourd'hui. Hein. Mettre la lumière sur les personnalités noires. Ouais, ouais, bien sûr, il y en a. Et celles qui rendent fières, oui, oui, il y en a, je te dis, il y en a. Celles d'antan, d'aujourd'hui et demain. Et lui, alors, et de lui, on en parle ou c'est comment? Ce genre de rebelle-là, au cœur sur la main, au cœur tendre, au gros cœur. Non, parce que, mis à part tout ça, mis à part le fait que son équipe ne soit pas à son beau fixe, on parle de lui pas mal en ce moment, hein, de lui, son nom est dans toutes les bouches, en tout cas il revient pas mal dans certaines bouches, il revient pas mal dans la presse américaine, sur les réseaux sociaux. Alors allons sur le terrain un peu, allons sur le parquet plus précisément, parce qu'il y a là-bas un homme qui interpelle, un jeune homme, oui. Parce que malgré les résultats plutôt médiocres de son équipe, direction les États-Unis, les Nets, son équipe. On me dit que les Nets possèdent la plus mauvaise défense de la NBA. Ils ont encaissé 149 points face à la plus mauvaise équipe de la côte Est. Et ça, ça passe pas. Et rien ne va plus. Ouh là là, mais que se passe-t-il? Les Nets, eux qui pensaient tenir une victoire. Et donc, de Kyrie Irving, on en parle ou c'est comment? Oui, on en parle puisque c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui. Kyrie Irving. Il est né le 23 mars 1992 à Melbourne, en Australie. C'est un joueur australo-américain de basketball. Il évolue au poste de meneur pour les Nets de Brooklyn, en National Basketball Association, en NBA, quoi. Alors, évidemment, il a des qualités, hein, sinon, on ne serait pas en train de parler de lui, là, ou en tout cas, il ne serait pas là où il est, n'est pas en NBA qui veut. Excellent dribbleur, il a de la maîtrise, ses gestes techniques aussi, hein, suscitent l'intérêt. D'ailleurs, il est largement considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de la NBA. Donc, ouais, c'est pas petit bitin, ce garçon. Il est rapide. Une de ses autres qualités sur le terrain, rapide d'exécution et de mouvement. Les 1 contre 1, il les bouffe tous, il les mange un à un. Bref, Irving est l'un des finisseurs les plus efficaces de la ligue. Ok, technique tout ça. Alors on parle de ses performances sportives, mais parlons de lui. Parlons de ses actions et notamment de cet acte qu'il a fait. Ouais. Cet acte dont certaines personnes et personnalités parlent. Cet acte dont certains de ses coéquipiers parlent. Stephen Jackson, par exemple, l'un des plus proches amis de George Floyd. George Floyd qu'on ne présente plus.
Ambiance Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Oui, allô? Tu sais que c'est toi, je t'écoute. On m'a vu ou encore?
Danger.
Mais les boîtes sont fermées, non? Ah, chicha, resto. Je peux plus faire la teuf. Ah, j'ai frotté des meufs, tout ça. Attends, bouge pas.
Encore une vieille histoire qu'on est venu te raconter. Et comme toujours ça vient de tes copines du quartier. Mais dans tes films t'y crois, tu vas jamais changer. T'aurais bien mieux à faire, mais si tu veux parler, tu sais rien du tout. Demande-toi laquelle est prête à tout. Magali, ton
mon ami, je crois que tu sais pas tout. Demande-toi pourquoi elles aiment foutre la merde partout. Elles te racontent pas la bonne version. Même si parfois je suis mauvais garçon. Cette soirée ne vaut pas tant de pression. Je suis tombé dans une story déjà. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le danger. Danger, story danger. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le danger. Danger. Je ne suis pas celui que tu penses. N'aura pas de dossier. À part de trois connus sans importance. Qui ne regardent que nous deux. Et puis tout ça n'est que du passé.
Tu sais rien du tout.
Si t'es dépassé, que veux-tu que j'y fasse? On va pas se vénérer pour des taspés, taspés. On va finir par se détester. J'suis encore là, mais tu te plains toujours. Elles savent que t'es là, mais elles traînent autour. Plus rien à faire ensemble si tu doutes, c'est certain. Story danger. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le danger. Danger. Story danger. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le danger. Danger.
À la découverte de l'univers de notre invité, l'artiste ambianceur Camro, qui nous rejoint sur le plateau d'Africa Radio pour nous parler un petit peu de son actualité, nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Camro, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Comment ça va? On l'a refait. J'ai juste. Ça va Camro?
Très bien et toi?
Très bien, alors je suis très heureuse de t'accueillir. Alors je suppose que Camro, ça fait référence à tes racines camerounaises.
Exactement.
Tout simplement.
Exactement.
Alors, tu es l'un des DJ les plus talentueux de ta génération. En tout cas, c'est comme ça qu'on te présente. Tu es passionné de musique. Tu es l'un des plus gros ambianceurs des clubs en France, puisque tu as évolué quelques années dans des clubs parisiens, notamment le Milliardaire ou le club le Cristal. Alors, dis-nous un petit peu comment tu as commencé, comment s'est révélée cette passion pour les platines, pour l'ambiance également, puisque tu es aussi MC. Comment tu as commencé? Raconte-nous un petit peu.
J'ai commencé un peu simplement en fait, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'aimais la musique dans un premier temps.
Ouais.
Et on commence toujours en fait dans les fêtes familiales, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, tu mets la musique pour les tontons, les tatas, les tantines. Et après, à un moment donné, tu dis non, les tontons, les tatas, là, ça va 5 minutes.
Ça suffit plus.
Ça suffit plus. Faut ambiancer le peuple. Et c'est de là que c'est arrivé. Et ensuite, en fait. J'ai décidé dans un premier temps de faire DJ. Donc, avec l'aide de ma maman, elle m'a aidé à avoir mes premières platines.
Ouais.
Tu vois, donc, j'ai pu avoir mes premières platines et ensuite m'exercer dans ma chambre en face d'un mur.
Ouais.
Voilà. Et quand tu te sens prêt, tu commences à avoir le dehors et essayer d'exercer ton talent. Devant un vrai public quoi. Donc au début c'est un peu compliqué.
Ouais.
Moi je suis pas du tout d'une famille musicale ou quoi que ce soit, donc j'ai dû aller dehors et me débrouiller par moi-même pour trouver les différents plans et tout, et ça s'est fait comme ça, et de fil en aiguille trois plans, tu viens, tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, et après d'autres personnes apprécient également ton travail, et c'est comme ça que ça a commencé et que j'ai pu évoluer par la suite.
Alors, il y a aussi les rencontres, hein, puisque je disais tout à l'heure, tu as officié dans des discothèques comme les Milliardaires, le Cristal, ensuite dans différentes discothèques à travers la France et les DOM. Mmh. Et ensuite, il y a une rencontre avec le DJ Abdel, le grand DJ Abdel, dont tu deviendras le binôme. Mmh. C'est en 2012.
Ouais.
Tu nous racontes un petit peu cette rencontre?
Là, c'est pareil. C'est comme si tu étais dit au début, en fait. C'est une rencontre vraiment... C'est vraiment par hasard en fait. Tu vois, j'étais résident dans une discothèque sur les Champs-Élysées.
Ouais.
Et c'était le DJ guest de la soirée. Et donc l'organisateur, il lui a dit, écoute, j'ai un petit qui est là, il s'appelle Camro, C'est lui qui ambiance un peu, c'est lui notre MC durant la soirée. Est-ce que ça te dérange qu'il fasse le MC pour toi durant ton set? Il a dit oui.
J'avais le micro en fait, ambianceur.
En fait, ambianceur MC, pour qu'on le dise, parce que peut-être depuis tout à l'heure on dit ambianceur MC, on est en train de parler flou, on dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui.
Pas flou du tout.
Mais en fait, ouais, l'ambiance MC, c'est que tu prends le micro et t'enjailles les gens tout simplement. Tu
fais les deux en fait, t'es au platine.
Voilà, je suis au platine et au truc. Mais quand je rencontre Abdel, j'arrête les platines pratiquement et je fais que ça. Parce que en 2012-2013, c'est quelque chose qui existait pas à Paris. Ouais, ça existait pas. Donc, j'arrête les platines et je me mets là-dessus. Et donc, je fais le set pour Abdel. À la fin du set, il me dit, donne-moi ton numéro. Je dis, ouais, t'es sûr, tu vas m'appeler? Il me dit, ouais, je vais t'appeler, tout ça. C'était un mercredi, je me souviens très bien. Et le dimanche, il devait aller à Lille. Il me dit, non, j'ai un plan à Lille et tout. Je vais t'appeler et tout et tout. OK. Jeudi passe, vendredi passe, samedi, il n'y a pas d'appel. Hein. Dimanche, pareil, il n'y a pas d'appel, il ne m'appelle pas. Il m'appelle une semaine après pour me dire, ah, écoute, désolé, allez, j'ai pas pu t'appeler, etc. Mais vas-y, j'ai un autre plan là, samedi, si tu veux venir, viens. J'ai fait ce plan-là. Et puis après, à partir de là, on a travaillé pendant pratiquement 4 ans ensemble et on a fait plus de 200 dates, on a fait toute la terre.
Une belle aventure.
Ouais, voilà, exactement, tu vois.
Et puis il y a un moment où tu as décidé en fait de faire toi de la musique, de passer au devant de la scène.
Exactement.
Et en fait c'est plus internet et les fans sur internet qui ont un peu validé ce premier titre que tu as lancé. L'alcool c'est de l'eau, ça a été un véritable carton.
Ouais.
Et ça a commencé comme ça en fait.
Exactement. C'est-à-dire que comme on dit, j'étais pas destiné à être devant la scène, à faire de la musique et tout.
Enfin,
à faire de la musique.
T'as pas eu,
Non, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais voulu être chanteur, rappeur, ni quoi que ce soit. Tu vois, quand j'ai commencé la musique, je voulais juste passer de la musique pour faire danser les gens. Après, j'ai pris les micros pour ambiancer les gens. Et en fait, de fil en aiguille, la suite logique, ça a été de faire ma propre musique. Et j'ai eu la chance que, dès le premier titre, donc, Alcool, c'est de l'eau, ça a directement cartonné et ça a pas cartonné que en France, ça a cartonné vraiment partout dans le monde.
Ouais.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit ah bah t'en as fait un, ça marche, bah pourquoi pas se lancer directement à fond là-dedans. Et je me suis lancé dedans et c'est comme ça que je suis devenu, je suis rentré dans le côté musical du truc quoi.
Alors un titre qui a fait beaucoup parler, c'est d'ailleurs devenu une phrase que les gens se sont approprié, l'alcool c'est de l'eau. Alors en fait, j'ai regardé le clip ce matin, ça commence en fait, c'est comme un petit film on va dire, une réunion d'alcooliques anonymes qui explique, on explique aux patients comment se sortir de cette addiction. Alors dis-nous un petit peu l'objectif de ce morceau, parce que c'est vrai que quand on écoute, on se dit là, il est en train de faire l'apologie.
En fait, il n'y a pas l'apologie, en fait, comme tu as vu le clip, en fait, pour nous, dans le clip, on a essayé de faire passer les messages que pour combattre cette addiction, et ben on essaye de il faut se dire que l'alcool c'est de l'eau. Donc en fait l'alcool c'est rien. Moi par exemple je vois pas d'alcool.
Ouais.
Voilà, tu vois, donc je peux pas te dire que je fais l'apologie de l'alcool ou quoi que ce soit.
D'accord.
Chacun prend le truc comme il veut en fait.
Ouais.
Et en fait c'est le plus important, c'est-à-dire que moi j'en bois pas. Moi avec l'eau je suis complètement bien, j'ai pas besoin d'alcool pour me mettre bien et m'amuser. Il y a d'autres énormément qui en ont besoin. Chacun le prend comme il veut, mais en tout cas, moi, en tout cas, quand j'écris le morceau et que je fais le morceau, c'est pas comme ça que je le pense. À la base même, je l'avais écrit dans un sens que, tu sais, quand t'es en boîte de nuit, tu farotes, donc tu prends énormément de bouteilles, tu prends énormément de, bouteilles, vodka, champagne, etc. Et donc, en fait, t'en prends plein. Et en fait, tu bois même pas la moitié, tu bois même peut-être un tiers et tout le reste. En fait, soit tu le laisses pour la boîte de nuit ou soit des fois tu le partages, etc. Et donc, moi, j'avais, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, les gars, vu que vous le dépensez l'alcool comme ça, écoutez, maintenant, on va arrêter de partager tout l'alcool que tu vas consommer. Si tu le consommes pas, tu vas le verser. Donc, tu vas commencer à le verser. Et donc, tu vas le verser comme de l'eau.
D'accord.
Donc, ça arrivait. Donc, à la base, c'est ça le truc.
Okay.
Tu vois. Donc, c'est là. Donc, en fait, quand il y a de l'eau, c'est que je le dépense. Pour moi, je l'achète pour rien. Je le dépense pour rien. Et que quand j'ai fini avec, je le verse aussi pour rien. C'est pour dire vraiment, c'est rien. Et donc, après, le fil en aiguille, c'est.
Quoi qu'il en soit, c'est un sujet universel. C'est un sujet qui a touché les gens, le public. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet sensible et qui concerne tout le monde.
Exactement. Exactement, c'est vraiment un sujet sensible. Enfin, un sujet sensible, je sais pas. Moi, je trouve pas, mais Mais en tout cas, c'est un sujet qui concerne le plus grand nombre, en tout cas.
Alors, donc il y a eu ce titre, l'alcool c'est de l'eau, et ensuite, vu le succès et l'engouement, t'as enchaîné d'autres morceaux.
Mm-hmm.
Desquels ?
Oh, après j'ai fait Pouvoir d'achat, j'ai fait On danse pas nous, j'ai fait
On danse pas nous,
avec le Sega, j'ai fait Petit Coquin, j'ai fait Jacadi, j'ai sorti un projet H2O volume 1, H2O volume 1, et ensuite par la suite bah j'ai continué à faire mon petit bout de chemin quoi, jusqu'à sortir dans les deux dernières années Sans Pitié, Tchalala, et puis j'ai commencé à un nouveau concept cet été,
ouais,
qui s'appelle La Teuf.
Ouais.
Et donc j'ai sorti la partie 1 et la partie 2 et on continue et ça va arriver sur un projet, j'espère, d'ici cet été, qui va s'appeler tout simplement La Teuf.
Alors on fait La Teuf alors qu'on peut plus trop faire La Teuf, alors je suppose que t'es impacté par la fermeture,
oui,
des discothèques et des clubs.
Exactement,
la
surtout
possibilité
aussi
de faire des prestations. Alors comment t'as vécu cette pandémie et comment tu la vis encore?
Bah au début, quand on t'annonce en mars que confinement, on pouvait pas sortir, etc. Sincèrement, tu vois les gens comme des martiens. Tu dis que c'est pas possible, c'est impossible que de faire ce qu'ils nous ont dit en fait. Donc au début, je suis.
On n'y croit pas.
On n'y croit pas.
C'est le déni en fait.
Ouais, voilà. Tu dis non. Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Ils disent ferme les trucs. On peut pas sortir. Des attestations. Non. Donc après, au début, donc finalement, ça se passe vraiment. Donc en fait, au début, il y a comme. Je vais pas dire t'as un coup de moins bien, mais. Tu comptes un peu les moutons, tu comptes un peu les mouches volées, quoi, tu vois. Donc, un peu comme tout le monde, je te mens pas.
Ouais.
Et donc après, par la suite, dès que j'ai passé ce cap, en fait, après, je le vis très, très bien. Moi, ça me dérange pas du tout. Après, c'est juste que c'est le fait, en fait, de pas travailler.
Ouais.
Tu vois, puisqu'en fait, il y a eu le déconfinement. Et malgré le déconfinement, les clubs ne sont toujours pas ouverts. Ça fait un an, dans un mois, que les clubs sont pas ouverts. Malgré le déconfinement, malgré des couvre-feux, malgré qu'on ait eu un été, malgré qu'on ait eu. L'ouverture des restaurants cet été, etc. Les clubs sont toujours pas ouverts. Donc là, pour le coup, ça m'a vraiment impacté. Ça m'impacte encore aujourd'hui.
Et comment on fait pour se projeter dans ces conditions?
En fait, on n'est pas Madame Irma. En fait, tu peux pas te projeter, en fait.
C'est vrai.
Tu peux pas te projeter. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, on s'est projeté au déconfinement en juin en se disant que bon, ils ouvrent un peu. Tout le monde est en train d'ouvrir petit à petit. Donc en fait, les boîtes de nuit vont être les derniers à ouvrir, mais on va ouvrir. Et donc à partir du moment qu'on n'a pas ouvert cet été et qu'en septembre on te parle de deuxième vague, de troisième vague, etc. Tu sais en fait que tu peux pas faire de plan sur la comète, tu peux rien planifier. Et en fait c'est un truc en fait que tu contrôles pas, c'est au-dessus de toi en fait. Donc en fait moi je suis en mode je subis quoi. Enfin je subis et j'attends.
Un peu comme les jeunes dont on parle beaucoup en ce moment, on les a beaucoup oubliés pendant le début de la crise sanitaire, des jeunes qui sont un peu perdus, d'autres qui tombent dans la dépression.
Exactement.
Ne peuvent plus sortir, plus avoir de vie sociale et surtout ne plus aller en boîte par exemple.
Au-delà de la boîte, en fait, c'est de se réunir. Tu vois, quand t'es jeune, même pour moi, en fait, en vrai, on voit que on est ici. En fait, tout ce qu'on veut faire, c'est on veut se réunir, on veut voir nos amis, on veut voir des gens, on veut communiquer avec le monde en fait. Et en fait, cette pandémie, ce qui se passe actuellement, en fait, ça nous prive de cette chose-là et qu'en fait, qui est essentielle, tu vois. Et donc, les jeunes, ils sont. Et donc, encore plus quand t'es jeune. Parce que quand t'as 19, 20 ans, tout ce que tu veux faire, en fait, c'est voir tes potes, et voir la fête et faire la fête et c'est tout. Donc, c'est vraiment pas évident. Et surtout, en fait, le pire, c'est encore si on te dit, bon, ok, tu peux pas faire la fête du 10 au. Je sais pas, au 31, à Tartampion, tu dis bon, ok, y a pas de souci. Mais là, en fait, on te dit rien. Et donc, en fait, là encore, on va dire, ils ont fait des efforts parce qu'ils donnent plus de dates. Parce qu'au début, ils donnaient des dates. Ils nous disaient, attendez le 21 juin, attendez le 14 juillet, attendez le. Avant, ils nous donnaient beaucoup de dates. Donc, on se planifiait. Ah, ils nous ont donné telle date. Et depuis la rentrée, ils ont compris qu'en fait, qu'eux-mêmes, ils maîtrisent rien du tout au truc. Et donc, il n'y a plus aucune date. Et donc le fait qu'il n'y ait plus aucune date, au moins t'es fixé, tu sais pas ça va être quand, mais le fait que tu sais pas quand ça va être quand, tu peux rien planifier quoi, et c'est pas facile, mais ça va.
Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'artistes qui ont été obligés de se réinventer, utiliser notamment internet et réseaux sociaux pour pouvoir continuer d'être en contact avec leur public et de faire leur passion. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que ça t'a poussé à envisager une autre manière de faire ton travail et ta musique?
Bah en fait, avant la pandémie, j'étais déjà énormément déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Snap, etc. Mais durant le premier confinement, un peu comme tous les artistes, je faisais des lives une à deux fois par semaine. Donc j'appelais ça le 19 show. Et donc dedans, en fait, je mélangeais en fait tout ce que je faisais. Donc j'ambiançais, je mixais, je chantais et j'invitais d'autres artistes. Ouais. À parler de leur ressenti, de comment ils vivent le confinement, ouais, leur actualité et un peu leur histoire, quoi. J'ai pu avoir Djibril Cissé, j'ai pu avoir Noah Lunsi, ouais, etc. Et donc on a échangé en live. Donc c'est ce que je faisais durant le premier confinement. Ensuite, après je te mens pas, depuis le deuxième confinement, quoi que ce soit, je fais plus trop de live ni quoi que ce soit. Et je me concentre plus sur ma musique, voilà. Donc moi, ça m'a permis vraiment de créer. Je pense que je dois avoir au moins deux albums de près, là, tellement que je vais au studio et que j'ai fait de la musique. Donc je suis plus là-dessus. Et je pense que maintenant, pour me réinventer, comme je te dis, j'étais déjà sur les réseaux. Donc moi, maintenant, mon seul objectif, c'est juste, en fait, sortir de la musique. Car, en fait, malgré tout ce qui se passe, les gens ils continuent à écouter de la musique chez eux, en voiture, autre, à télécharger, à streamer. Donc en fait, il faut leur donner à manger. Donc c'est ce que je vais faire.
Alors justement, lorsque tu dis donner à manger, on parle aussi au niveau de la sauce, hein, ta sauce musicale,
ouais,
de la camerounisation.
Ouais, t'as du mal à le dire.
Ouais, t'as vu.
Il est quelle heure? Il est 11h30.
J'ai rien vu du tout. La camerounisation, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
La camerounisation. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là?
En fait, la camerounisation, j'ai voulu créer, en fait, en gros, c'est d'avoir ma signature et avoir mon propre style.
Ouais.
Et en fait, à travers la camerounisation, j'essaie en fait de mélanger différentes sonorités,
ouais,
dans ma musique et en fait et d'en faire un tout, la camerounisation. Donc j'essaie de mélanger un peu l'urbain, le hip-hop avec des sonorités tropicales, avec les sonorités africaines. Donc j'essaie de mélanger un peu tout ça, de faire ma propre sauce, de tout mélanger et d'en faire la camerounisation. D'accord. Comme on a pu l'écouter avec la Teuf partie 2, tu vois.
D'accord, ok, qu'on va réécouter dans un petit instant. Et c'est quoi ton rapport avec ton pays d'origine, le Cameroun? Tu es né en France ou
Je suis né en France.
D'accord, et tu y retournes souvent au Cameroun?
Oui, j'y retourne souvent. Après maintenant, ça va faire 2 ans que je ne suis plus parti. Je devais partir l'année dernière, mais bon, pandémie, coro, on ne peut plus y aller. Enfin, je n'ai pas pu y aller plutôt.
Ouais.
Mais ouais, avant ça, j'y allais au moins une à deux fois par an. T'es
en contact avec des artistes là-bas?
J'en suis en contact avec certains artistes là-bas. Mais pour te dire, quand je vais au pays, donc au Cameroun, donc oui, je peux faire un peu de tout ce qui est promo de ma musique, donc ouais, radio, télévision. Mais je vais surtout là-bas pour kiffer, tu vois.
D'accord.
Je vais là-bas pour kiffer. Donc je suis à Douala, je vais à Yaoundé, je vais à mon village. Donc je vais voir les grands-parents, je vais voir les tontons, les tatas, les cousins et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est très important de
se ressourcer.
Ouais, de se ressourcer. C'est quelque chose que j'y tiens énormément.
Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus? Et si on veut télécharger ou streamer tes morceaux, où est-ce qu'on te trouve sur Internet?
Bon, on me trouve sur Internet.
Camero.
Mais c'est tout simple.
Simplement.
Hein. Tout simplement, tu tapes Camero sur Google et Camero officiel Instagram, Camero sur Facebook.
D'accord.
Cameronisation sur Snap. Et puis, pour écouter ma musique, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les
plateformes.
Toutes les plateformes de streaming pour écouter ma musique librement et gratuitement.
Je vais te laisser dire un dernier mot, je vais te laisser conclure.
Ah, comment on peut conclure?
Ah, très bonne question.
Non, en tout cas, merci de m'avoir invité à Africa Radio. Courage à toutes les personnes qui nous écoutent. Courage ou pas courage, bonne journée. Hein. Et puis, et continuez à me suivre. Merci à tous les supporters. La teuf. Bon. Chiche!
On va en profiter pour faire la teuf. Merci beaucoup, Camero.
Merci à toi.
Bienvenue. À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci.
Oui, allô? Tu sais que c'est toi, je t'écoute. On m'a vu ou encore?
Danger.
Mais les boîtes sont fermées, non? Ah, chicha, resto. Faut plus faire la teuf. Ah, j'ai frotté des meufs, tout ça. Attends, bouge pas. Hey.
Encore une vieille histoire qu'on est venu te raconter. Et comme toujours, ça vient de tes copines du quartier. Tu dans tes films, tu crois, tu vas jamais changer. T'aurais bien mieux à faire, mais si tu veux parler, tu sais rien du tout. Demande-toi laquelle est prête à tout. Magali, ton ami, je crois que tu sais pas tout. Demande-toi pourquoi elles aiment foutre la merde partout. Hein. Elle te raconte pas la bonne version. Même si parfois je suis mauvais garçon. Cette soirée ne vaut pas tant de pression. Je suis tombé dans une story déjà. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le denja. Denja, story denja. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le denja. Denja, je ne suis pas celui que tu penses. Toi pas de dossier. À part de trois communes sans importance. Qui ne regarde que nous deux. Et puis tout ça n'est que du passé.
Tu sais rien du tout.
Si t'es dépassé, que veux-tu que j'y fasse? On va pas se vénère pour des taspés, taspés. On va finir par se détester. J'suis encore là mais tu te plains toujours. Elles savent que t'es là mais elles traînent autour. Plus rien à faire ensemble si tu doutes, c'est certain. Story Danger. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le denja. Denja, story denja. Un jour on s'aime et l'autre on ne s'aime pas. On a dans les histoires qui ne tiennent pas. Les jaloux veulent te mettre dans le denja. Denja, story denja.
La teuf, la teuf, la teuf. Partie 2.
Bien Africa.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambe tu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Kitanda shuka za mauaua ya maru, kisha tubonge na vyanda, mambo ya kujizimua na valu, nifunge upande kanga.
Bye. Bonjour, comment ça va?
Plus que connecté, les esprits sont de retour, Aïssa Thiam.
N'est-ce pas? Ça va?
Oui, ça va. Alors Aïssa, aujourd'hui nous allons parler du culte des ancêtres chez les Africains.
Ouais.
Voilà, en Afrique noire, en fait, les ancêtres restent au centre de la spiritualité. Leur vénération est un aspect fondamental dans la pratique religieuse de l'Afrique noire. Voilà. À ton avis, pourquoi les ancêtres restent toujours au centre de notre culture, de nos pratiques culturelles?
Parce que je sais pas. En fait, c'est, on va dire que c'est un lien entre le, entre nous, l'au-delà, entre les, enfin voilà, je sais pas.